Et du coup, je propose qu'on passe la parole directement à l'intervenant suivant, qui sera donc Antoine Gourmand. Gourmand, je ne sais pas si vous intervenez à deux du Smijibad, donc sur la perception locale sur la mise en œuvre d'opérations de gestion des cours d'eau inspirées de leur fonctionnement naturel. Et on reviendra sur les questions sur les énervés dans la discussion finale. Merci Catherine.
Oui, bonjour à tous. Non, j'interviens tout seul. Je vais direct partager l'écran. Vous allez me dire si ça fonctionne.
Ouais, juste passer peut-être en version.
C'est bon comme ça?
Ça arrive, oui, c'est bon, très bien.
Ouais. OK. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Antoine Gourand. Donc, je suis chargé de mission dans un syndicat mixte qui s'appelle le SMIJIBA. Donc, c'est le syndicat de gestion de la vallée du Gouëch. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus de milieux naturels et des questions de protection de berges. Voilà, autour de la question du génie végétal, technique mixte face au génie civil. Donc, petite présentation quand même de la vallée pour se situer, hein. Il y avait des remarques sur les milieux urbains ou milieux ruraux. Effectivement, je pense que là, je présente des choses beaucoup plus rurales que ce qui était présenté jusqu'à maintenant. Le bassin du Gouëch, il s'étale un peu sur deux régions, entre, en gros, la route de Grenoble à Sisteron. Et donc ça s'étale sur trois départements, mais essentiellement les Hautes-Alpes, pour un bassin versant d'environ 1 500 km². Alors voilà, donc vous voyez les chiffres, une soixantaine de communes et que 30 000 habitants. Donc effectivement, on est dans une zone plutôt largement rurale, donc avec plutôt des enjeux agricoles, on va dire, hein. Voilà, donc un syndicat mixte qui regroupe des EPCI, c'est-à-dire des communautés de communes qui adhèrent au syndicat. Et voilà, donc on intervient sur leur territoire autour de toute la vallée du Gouëch. Ça représente 120 km de cours principal. Alors, cours principal, c'est ce qu'on appelle les branches du Gouëch. Vous voyez sur la carte, là, dans la zone verte, on appelle ça le Grand Gouëch. On a le Petit Gouëch qui vient de ce bassin, là, en violet. Et puis, toute la partie sud, c'est le Gouëch qu'on appelle Gouëch aval. Donc, 40 km pour chacune de ces grandes branches du Gouëch, et puis aussi environ 500 km d'affluent. C'est un bassin non négligeable qui est un affluent en rive droite de la Durance. Voilà pour la situation géographique. Alors ensuite, c'est une rivière, on va dire alpine, mais qui a une forte influence méditerranéenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, on a des variations de débit au cours de l'année qui sont très importantes, avec des périodes d'étiage, hein, très marquées, très fortes, l'été, mais aussi l'hiver, selon les hivers, bien sûr. Si on a un hiver froid, on aura aussi un étiage hivernal, et des périodes de hautes eaux qui vont être essentiellement à l'automne, mais aussi au printemps, si on a une fonte de neige importante. Donc, ces variations de débit, elles façonnent la rivière, parce que, du coup, vous voyez, hein, sur les images, on a une rivière qui peut s'étaler sur un lit d'une largeur bien supérieure à ce qu'elle occupe au niveau de ses écoulements. Et c'est ces lits très larges qui permettent d'écréter les crues lorsque les crues passent. Et c'est la particularité des rivières qu'on appelle des rivières en tresse. Rivières en tresse, parce qu'on le voit bien, hein, sur l'image en haut à droite, c'est des rivières qui forment plusieurs bras qui s'entremêlent. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de rivières en tresse, avec création au milieu d'îlots, végétalisés ou non, mais qui, normalement, ont la particularité d'être remis en mouvement à chaque crue, hein, et c'est aussi pour ça que, enfin, comme ça que ces rivières fonctionnent. C'est une question d'équilibre entre un débit liquide et un débit solide. Voilà, donc le débit solide transporté par la rivière lui permet, en fait, et puis et ben d'assurer ces mouvements de galets, ces érosions un peu continues et ce transport sédimentaire
perpétuelle. Voilà, alors.
Disons qu'on a perdu le
cours
son.
De ce... Depuis le... Il y a peut-être eu des coupures, j'ai la connexion qui est instable, j'espère que ça a repris.
C'est bon, oui.
Si tu coupes ta caméra, Antoine.
Pardon ?
Peut-être coupe ta caméra, ça va peut-être...
Bon, vous me redites si ça coupe, si...
Ok.
Bon, j'ai repris en coupant la caméra. J'espère que ça va mieux fonctionner. Vous me dites là si vous m'entendez.
Oui, on t'entend très bien.
Ouais, ok, bon, je reprends. Donc, sur les paramètres de dysfonctionnement, de dysfonctionnement naturel, donc voilà, qui a lieu essentiellement depuis le milieu du 19e siècle, avec la création d'endiguements assez importants dans la vallée du Buëch. Notamment ce qu'on appelle les axes de circulation de napoléoniens, donc tout un réseau de circulation qui ont été créés grâce à l'élaboration de digues à proximité du Buëch, mais en même temps des digues qui ont aussi permis le développement de zones agricoles et puis de petites zones urbaines. Donc ça a généré des modifications des zones d'érosion et du transport. Et puis aussi la diminution des apports de matériaux par les zones de production, qui sont donc les montagnes, parce que ces montagnes se revégétalisent très fortement. Et puis on a eu aussi des curages massifs au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Et tout ça combiné à une évolution de l'hydrologie naturelle, c'est-à-dire que la pluviométrie a tendance à évoluer. On n'a pas de système de mesure qui était en place depuis très longtemps dans la vallée du Buëch. Mais sur la base d'écrits ou de témoignages oraux, on sait que les crues, elles ont tendance à être quand même moins fréquentes, que ce soit les fortes crues, mais aussi les petites crues régulières qui permettent toutes ces remises en mouvement de matériaux. Voilà, donc ces perturbations, j'en parle parce qu'elles génèrent quand même une forte modification de la nature du lit que je vous ai présenté tout à l'heure, avec ses rivières en tresse, ses bras multiples, ses chenaux. Et donc les dysfonctionnements, ils font qu'on a moins d'apport de cailloux dans le lit de la rivière, et donc moins de transit, moins de transport, donc des phénomènes d'incision, de creusement du lit qui va dissiper sa force érosive dans les périodes de crue vers le fond du lit qui va être plus tendre, et donc créer des incisions. Voilà. Donc ces incisions, elles vont générer des affouillements sur les protections de berge, les enrochements, et parfois les déstabiliser jusqu'à leur destruction totale. Ça va aussi générer la végétalisation des atterrissements, des îlots qu'on voit dans le milieu du lit, qui auront encore plus de mal à être déstabilisés lors des prochaines crues, et donc à encore amplifier les menaces sur les berges qui ont été protégées. De la même manière, ça nous crée aussi une perte de diversité et de surface de milieu naturel. Les micro-habitats ont tendance à diminuer parce que le lit se chenalise, on a moins de surface de contact entre le substrat et l'eau, donc forcément moins de milieu naturel potentiel. Alors, donc pour en venir aux ouvrages, les protections de berge, elles ont commencé dans la vallée du Buëch, donc milieu 19e siècle. Vous voyez un dessin, un plan des digues anciennes qui ont été réalisées sur une commune qui s'appelle La Forie. Alors ces ouvrages-là, ils ont été réalisés à l'époque essentiellement à la main, avec la traction animale. Et ils avaient un petit peu les mêmes systèmes actuellement. On mettait des sabots parafouilles, puis des levées de perrées, avec par contre des enterrements qui étaient avec des blocométries beaucoup plus faibles que ce qu'on fait actuellement. Le problème, c'est que l'incision dont j'ai parlé tout à l'heure a fait creuser le lit, qui a descendu dans certains endroits de 1, 2, voire 3, 4 mètres, ce qu'on a pu voir, et donc déstabiliser tous ces ouvrages-là, qui avaient permis effectivement le développement des zones rurales. Donc aujourd'hui, on vient à se poser la question de la reprise de ces protections-là dans certaines zones où les ouvrages sont trop dégradés, mais aussi de protéger des nouvelles zones qui ne l'étaient pas, parce qu'on a eu une divagation du lit et qu'aujourd'hui, la rivière menace des enjeux qui ont été créés récemment, ou alors des enjeux plus anciens, mais dont les protections ne sont plus fonctionnelles. Donc, au niveau du syndicat, concrètement, nous, on a essayé d'apporter techniquement des solutions, celles qu'on parle de solutions basées sur la nature, en proposant des techniques végétales. Alors, je dis ou mixte parce qu'on est plus souvent dans le mixte, dans le sens où, étant dans des rivières alpines, avec des fortes pentes et avec des capacités érosives et d'affouillement très importantes, on a une problématique qui est essentiellement, enfin, qui va se concentrer parfois sous la protection par affouillement. Et donc, on va devoir aussi protéger la zone sous-fluviale. Et là, on ne peut pas utiliser les techniques végétales en souterrain. Pour nous, c'est impossible. Donc, on va souvent faire une association de végétal et de minéral en mettant le minéral dans la partie invisible, donc sous-fluviale. C'est ce qu'on appelle les sabots dans le jargon. Et puis, faire des protections de berges aériennes, les parties de talus, en technique végétale. Donc là, on voit, par exemple, sur la photo gauche, hein, c'est une fascine en pied de berge avec un talus qui a été ensemencé, revégétalisé. Là, c'est une photo juste après la réalisation de la protection. Et on ne voit pas, là, en souffle fluvial, mais il y a des gros blocs qui permettent d'éviter les affouillements. Et là, de ce côté-là, on a une technique aussi par des caissons végétalisés, hein, qui consistent à mettre des gros rondins de bois remplis de terre et de sol qui vont repousser. Voilà. Donc, l'idée, c'est de proposer des techniques où on va avoir la recréation de l'habitat naturel qui vont permettre le redéveloppement d'une végétation qui est source d'ombrage, source de micro-habitat. Proposer des aménagements pérennes, alors je vais y revenir après. Sur la question des coûts, alors dans le génie végétal, on a des coûts très très variés, hein, entre par exemple ce caisson et des fascines. Le caisson, c'est presque le double par rapport à des fascines. Mais le caisson est en général la technique la plus coûteuse en génie végétal. Et c'est celle qui va avoir plus ou moins les mêmes coûts que le génie civil pur, les enrochements. Voilà. Et en termes d'intégration paysagère, chacun ses goûts, hein, mais c'est vrai que là, on arrive à des protections de berges qui ressemblent quand même un petit peu plus à quelque chose de naturel, à la présence d'une ripisylve et d'une végétation de bord de cours. La mise en œuvre de ces techniques-là dans le bassin, elle est compliquée, elle a été très compliquée à démarrer. Parce que elle pose la question de où est-ce qu'on intervient, pourquoi on intervient en tant que syndicat sur les gestions de patrimoine, de ce que j'entendais tout à l'heure. Hein, la difficulté dans une rivière, c'est que des fois on a une absence de propriétaires dans le sens où on est sur du terrain des rivières qui peuvent parfois être propriété de l'État ou non cadastrées, et on a des ouvrages qui sont très vieux et peu de propriétaires qui se manifestent. On a aussi des propriétaires qui peuvent être des agriculteurs avec des grands champs, des ouvrages qui vont aussi protéger en arrière-plan des villages et des enjeux plus importants. Donc la question, elle est de savoir qui va intervenir sur ces aménagements-là et qui va payer concrètement. Voilà. Donc quand on retrouve des forts enjeux d'intérêt généraux, en général, les collectivités vont essayer de s'associer et de voir qui prend la maîtrise d'ouvrage et donc les coûts. Donc ça, c'est la première difficulté. Pour savoir où est-ce qu'on intervient. Ensuite, sur le type de technique, il y a effectivement les facteurs, on va dire, les facteurs plutôt scientifiques, c'est-à-dire dans certains endroits trop torrentiels, et c'est compliqué d'utiliser du génie végétal. Donc voilà, nous, on essaie d'observer quelle est la possibilité de réaliser la technique végétale ou mixte en fonction des secteurs et de notre regard technique. Mais ensuite, il y a l'acceptation par les décideurs, donc les élus localement, mais aussi par des riverains, par des propriétaires, qui vont avoir tendance à avoir une plus grande confiance dans le génie civil. Pourquoi? Parce que c'est on va dire plus traditionnel, c'est plus qu'on connu les générations d'avant ou encore les générations actuellement. C'est-à-dire qu'on a énormément mis en avant le génie civil et les enrochements. Depuis le post-seconde guerre, parce qu'on a commencé à avoir des retours d'expérience, on a des ABAC, des certifications de résultats, de résistance des matériaux qui permettent, notamment au bureau d'études, de garantir leurs aménagements et de proposer les décennales dans les travaux. Le génie civil, c'est beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, personne ne pose de garantie sur des aménagements en génie végétal. Les bureaux d'études ont beaucoup de difficultés à les proposer parce que c'est mettre en jeu leur garantie décennale sur des aménagements pour lesquels il n'y a pas d'ABAC ou énormément de retours d'expérience sur les durées de vie et sur les résistances. Et puis, et ben voilà, c'est ce que j'indique aussi, il y a la question de la valeur patrimoniale de ces enrochements, parce qu'on a aussi beaucoup de réactions de personnes vivant à proximité de ces protections qui disent, ben voilà, c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père qui les ont installées, qui les ont construites, ça a toujours fait partie de ma vie et je ne veux pas voir ce paysage autrement. Voilà un petit peu pour les grandes difficultés à proposer autre chose que les techniques mixtes. Alors, donc nous, notre manière de procéder pour essayer d'avancer, d'apporter de la matière et des éléments aux décideurs ou alors dans nos réunions de concertation, bah, c'est de réaliser des analyses multicritères qui comparent les différentes techniques, donc génie végétal, génie civil. Alors végétal, j'entends bien mixte hein, en général. En prenant un petit peu tous ces paramètres qui sont indiqués là, hein, les questions de coût, de résistance de l'ouvrage, sa durée de vie, l'intégration paysagère, le foncier, parce qu'effectivement, quand on utilise des techniques végétales, souvent, on va devoir avoir des pentes plus faibles sur les talus, donc un besoin d'emprise foncière, et puis les questions d'acceptation locale et de gain environnemental. Alors, sur les coûts, là, je vous ai mis des éléments, hein, c'est des éléments qui sont tirés d'un ouvrage qui s'appelle Génie Alpes, qui est une très, très bonne base d'informations sur les retours d'expérience concernant les techniques de génie végétal en milieu de montagne. Alors, ça concerne plus les Alpes du Nord, mais ça reste quand même assez valable sur les Alpes du Sud. Bon, les prix sont assez indicatifs et dépendent pas mal des secteurs. Globalement, nous, les aménagements qu'on a pu faire dans la vallée, ils sont quand même beaucoup moins coûteux que ça en prix unitaire ou en prix au mètre linéaire. Voilà, donc on compare quand même, nous, hein, question végétalisée, au même prix qu'un enrochement en gros. Et après, tout est dégressif en fonction du niveau de résistance aussi de l'ouvrage. Alors voilà, des éléments, mais que je peux vous inviter à chercher hein, dans l'ouvrage génial, vous trouverez tout ça en ligne, sur les questions de résistance de différents types de protection. On voit que dans le temps aussi, c'est ça, nous, ça nous questionne énormément sur l'utilisation de telle ou telle technique, parce que ça va nous amener à évaluer l'entretien qu'on va avoir. Parce que c'est ça aussi, nous, la difficulté, c'est qu'en tant que syndicat mixte, on est souvent assistant technique à un maître d'ouvrage, et donc pas forcément de propriétaire, donc pas forcément en charge de l'entretien interne. Et on sait qu'un enrochement, par exemple, ça s'entretient, on ne laisse pas une végétation ligneuse se développer dans les enrochements parce qu'on a des gros problèmes de développement de renards hydrauliques ou autres. Et puis, de la même manière, des protections en génie végétal méritent un entretien, on va dire, tous les 5 ans, hein, en moyenne, pour recéper, par exemple, des essences arbustives et éviter qu'on ait des développements de gros arbres qui auraient tendance à s'écrouler ou à être menaçants pour la pérennité de l'ouvrage. Voilà, l'intégration paysagère, je vous laisse chacun penser ce que vous voulez, voilà. Mais bon, le minéral dans les zones de montagne, ce n'est pas non plus des verrues dans le sens où ça s'harmonise bien. On a des lits qui sont quand même très, très minéralisés. On a une présence de cailloux assez importante. Après, il y a des digues et des protections de berges plus ou moins intégrées au paysage. Le génie végétal, on va dire qu'il est censé s'inspirer des berges qu'on observe et aussi utiliser les essences évidemment présentes dans la vallée. La problématique foncière, j'en ai parlé, hein, là on voit un exemple d'une grande digue qui contraint énormément la rivière. Donc si on voulait recréer un espace plus naturel avec un fonctionnement, on va dire, plus équilibré, il faudrait un peu recréer ce qu'on voit plus en amont, en haut de la photo, et des largeurs comme ça pour recréer des pentes plus douces, des talus en végétalisés. Donc ça, c'est un gros, gros souci pour pouvoir avancer sur des projets importants, la question foncière. Le gain environnemental, bon, il est assez important. Effectivement, si on recrée des berges végétalisées, eh bien, on va avoir un ombrage du cours d'eau, ce qui est très important dans notre région. Hein. On a des températures qui montent à parfois 27 degrés dans les cours d'eau en plein été. Une diversification d'habitat avec des berges choucavées qui sont très propices pour certaines espèces piscicoles. On produit de la matière organique avec de la matière carbonée qui tombe dans l'eau. Un corridor biologique pour les espèces aussi, les oiseaux et les chauves-souris. Voilà, limitation de risques invasifs du fait d'une végétation qui serait déjà présente. Et puis, une fonctionnalité d'auto-épuration du cours d'eau qui est propre aux ripisylves. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je ne sais pas si j'ai débordé, était trop rapide, mais je peux répondre aux questions. Est-ce que vous m'entendez toujours ?
Oui, merci pour cette intervention. Yves, je te repasse le relais.
Oui, merci. Merci Antoine pour cette présentation. Une question que je me posais à propos du Buech, c'est est-ce qu'on a aussi du patrimoine historique, genre des moulins, ce genre d'ouvrages dont la présence peut éventuellement localement devenir gênante?
Alors, moulins, je dirais assez peu, quelques petits affluents qui n'ont pas des pentes trop exagérées. Le patrimoine à ce niveau-là, ici, dans la vallée du Buech, il est plutôt lié aux canaux d'irrigation. C'est-à-dire qu'on a sur la moitié du bassin versant, un mode d'irrigation qui est gravitaire. Donc ça, c'est aussi un fort patrimoine local. Donc c'est un mode d'irrigation par gravité. C'est-à-dire que donc il y a un prélèvement en direct dans le lit. Et puis ensuite, tout un système de canaux qui viennent irriguer des parcelles agricoles par inondation. Voilà. Donc ça, c'est valable dans des systèmes de prairies de fauche, hein, pas de céréales ou autre. Mais voilà, ça, c'est un patrimoine qui est assez important et qui pose effectivement des problématiques parce qu'il faut maintenir cet accès à l'eau avec un lit qui s'incise, avec des problèmes d'érosion de ces canaux qui sont souvent en parallèle du lit de la rivière.
D'accord, et donc il y a une nécessité de les entretenir et de préserver ce patrimoine.
Alors oui et non. Oui et non, dans le sens où il y a une évolution de l'agriculture, hein, localement, mais enfin de manière nationale, mais localement aussi, qui fait que certains canaux sont devenus hors d'usage, ou alors il y a un passage à l'aspersion, qui du coup, pareil, tend vers l'abandon de ces canaux. Et je dirais qu'au niveau du syndicat, ce n'est pas du tout dans nos fonctions d'entretenir ce patrimoine-là. Et je dirais qu'effectivement, pour ne pas perdre la mémoire, c'est intéressant de préserver certains tronçons. Mais par contre, je pense qu'il est avant tout nécessaire d'essayer de recréer un fonctionnement plus naturel, avec plus de latéralité pour le cours d'eau. Donc, ça demande l'abandon dans certains secteurs de ces canaux. Ouais.
On a aussi quelques questions sur le choix des critères qui sont retenus pour choisir les différentes techniques et choisir les espèces végétales. Est-ce qu'on prend toujours des espèces locales? Je crois que, il me semble que tu as plus ou moins répondu déjà à cette question-là. En fait, quelle est la, en quelque sorte, l'implication des habitants de la vallée dans ces choix?
Oui, alors donc rapidement sur les essences, effectivement, hein, on n'utilise que des essences locales qui sont déjà observées et inventoriées comme étant largement présente dans la ripisylve du Buech. Ensuite, sur le choix de la technique, il est énormément conditionné par l'hydromorphologie locale de là où on va faire la protection, c'est-à-dire pas mal de critères plutôt physiques, hein, quelle largeur on a du cours d'eau à cet endroit-là, quel type de débit et de vitesse d'écoulement on va avoir. Quelle profondeur d'incision on pourrait rencontrer, quelle est la taille de la granulométrie du substrat. Voilà, c'est tout ça qui va conditionner et un petit peu choisir la capacité de résistance du type d'aménagement. Et ensuite, alors pour ce qui est de l'implication de la population, c'est là que c'est très, très difficile, on va dire. On a pas mal d'endroits où les protections, elles ne vont pas concerner beaucoup de population. On est dans une zone très rurale. Donc, des fois, quand ça concerne que un, deux propriétaires ou exploitants agricoles, on voit directement avec eux, d'autant plus si ce sont eux les financeurs, à leur proposer plusieurs choix, plusieurs scénarios. Et on essaye d'arriver à un compromis avec eux entre des enjeux environnementaux et leurs propres enjeux et leurs propres moyens financiers. Ensuite, quand on est dans des zones plus urbaines, des traversées urbaines, où là, on va impacter tout le monde, on va dire, quand c'est des lieux de promenade, par exemple, en haute berge, sur des digues qui ont été aménagées pour la promenade, on a essayé d'engager dans certaines communes des démarches de concertation, réunions publiques, entretien avec les gens individuellement, rendez-vous sur site, visite de site. Voilà, on a fait pas mal de démarches, notamment sur une commune, là. Et c'est très délicat parce qu'il faut un portage, on va dire, politique aussi de ces propositions-là. Et à l'heure actuelle, c'est délicat. Voilà, c'est délicat. Il y a encore énormément de, c'est ce que j'expliquais, énormément de, on va dire, de croyances dans le génie civil ou en tout cas de méfiance par rapport aux techniques végétales. Et puis, une peur aussi de la perte de ce patrimoine pour certains qui représentent une histoire. Des fois une histoire familiale. Donc après, j'ai envie de dire que la sortie de la solution, la sortie de crise entre guillemets, bien sûr, elle est en fonction du pouvoir politique qui sera le décideur et qui va choisir ou non d'aller dans le sens, soit du projet retenu, soit du choix de la population localement, quoi. Ou alors, des fois aussi dans le sens des deux, parce qu'on peut largement aussi arriver à un choix qui soit accepté par tous. C'est pour ça qu'on fait ce que j'expliquais, là, les analyses multicritères, qu'on essaye d'expliquer, voilà, pour que tout le monde puisse se rendre compte comment on a choisi telle ou telle solution.
Peut-être une dernière question avant de passer à une discussion plus générale sur les quatre interventions. Une question qui est revenue dans le chat, c'est le rôle des bureaux d'études sur les outils opérationnels dont ils peuvent disposer et sur le rôle qu'ils peuvent être amenés à jouer auprès des maîtres d'ouvrage.
Ouais, alors là, c'est très variable. C'est très variable et c'est très important, j'ai envie de dire, dans le sens où, en fonction du bureau d'études, on peut avoir des bureaux d'études qui vont avoir beaucoup de mal à sortir de, alors je mets beaucoup de guillemets, mais à sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire qu'à sortir de tout ce qui est bien écrit dans la littérature scientifique sur les protections de berges, et d'autres qui vont être plus ouverts à des propositions plus novatrices, plus vertes, plus écologiques, plus basées sur des solutions naturelles. Voilà, donc ce qui est important, c'est aussi d'essayer de trouver des bureaux d'études qui ont différents corps de métier dans leurs équipes. Voilà, donc et qui vont être ouverts à essayer de prendre des risques aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que ce qui nous a vraiment permis sur notre bassin, par exemple, de sortir des solutions en génie végétal ou en génie mixte, c'est vraiment parce qu'on a au sein du syndicat réalisé des travaux sans bureau d'études. Voilà. On a fait de l'assistance technique à maître d'ouvrage, donc c'est-à-dire des travaux portés en tant que maîtrise d'ouvrage par des communes, des com-com ou autres, pour lesquels nous, en tant que syndicat de rivière, on leur a fait tout le travail, donc c'est-à-dire le dimensionnement et la maîtrise d'œuvre d'exécution. Sinon, je pense qu'on n'en aurait peut-être pas sorti. Voilà. C'est grâce à ça qu'on a pu faire un peu nos preuves sur le génie végétal et essayer de le défendre et de le valoriser dans la vallée.